J'aimerais parler ce matin sur l'onction de David. Dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 6, il est écrit « Lorsqu'ils entrèrent, donc il s'agit ici de Samuel qui rentre chez Isaïe, il se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, bethléémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et ayant une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. On vit aujourd'hui à une époque où les technologies ont pris le pas. Il y a beaucoup de facilité pour se contacter, pour envoyer des messages avec Internet, les réseaux sociaux. On peut témoigner aussi à un plus grand nombre de personnes grâce à ces développements de toutes ces technologies, et c'est bien. Mais néanmoins, nous avons besoin encore aujourd'hui de l'onction du Saint-Esprit, de ce revêtement de puissance qui est accordé aux croyants et qui est nécessaire pour le témoignage. C'est ce que David a reçu. Il a été oint par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu sur lui et il est devenu un instrument efficace entre les mains de Dieu. Et ça ne pourra jamais être remplacé par toutes les technologies ou tout ce que la modernité peut nous apporter, et c'est une bonne chose. Mais néanmoins, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et de la grâce de Dieu au milieu de nous. Le roi Saül, nous savons qu'il était un mauvais roi. Il a désobéi à Dieu, il s'est éloigné du plan de Dieu. Et Samuel pleurait sur lui. Le verset 1 dit ceci, « Quand cesseras-tu de pleurer Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » En fait, Samuel pleurait sur Saül parce qu'il espérait que Saül, on allait faire quelque chose avec lui. Mais Dieu lui avait laissé sa chance. Dieu avait laissé plusieurs chances même à Saül, il ne les avait pas saisies. Et maintenant, Dieu avait dit, c'est fini, nous allons choisir un autre roi. Cet autre roi, ça sera David. Et c'était inutile pour Samuel de soutenir ce roi Saül désobéissant qui était décadent, qui allait disparaître progressivement parce qu'il avait perdu l'onction, il avait perdu l'autorité. Et maintenant, il fallait que Samuel s'attache à David qui était le choix de Dieu. Paul prend l'exemple du corps pour montrer que chacun a sa place et que tout le monde ne sera pas la tête. Il dit, tous nous sommes les membres du corps. Il y en a qui sont au niveau des bras, d'autres des jambes, d'autres des pieds, mais chaque membre est important. Mais tous ne peuvent pas avoir la même place. Chacun doit trouver sa place pour être à l'aise, la place que Dieu nous a assignée. La place donc de David, c'était d'être roi. Et la place de Saül, c'était maintenant de laisser la place au nouveau roi. Saül ne l'a pas compris, il n'a pas voulu céder la place. Il a été jusqu'au bout, nous savons qu'il a fini d'une manière misérable en se supprimant. Mais c'est maintenant David qui a reçu l'onction. D'abord, le premier point que je vois, c'est le choix de Samuel. Samuel, lorsqu'il arrive chez Isaïe avec cette parole, il sait que chez Isaïe, il va y avoir le prochain roi. Donc il a quand même cette direction, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui reçoit des directives de Dieu et qui met en place les choses que Dieu demande. Donc il le fait et il est sensible à la voix de Dieu depuis son enfance. La Bible dit que lorsque Samuel était enfant, il a entendu plusieurs fois la voix de Dieu lui parler. Donc on peut entendre Dieu si nous ouvrons simplement nos oreilles. Car à la base, nous sommes sourds aux choses de Dieu, nous sommes aveugles. Mais par l'action du Saint-Esprit, nos oreilles peuvent s'ouvrir, on peut enfin entendre les choses de Dieu. Et nos yeux peuvent s'ouvrir, on peut enfin voir les choses de Dieu. C'est ce qui s'est passé donc pour Samuel, enfant. Il a été éclairé, il a entendu Dieu, et depuis, il se laisse conduire par Dieu. Mais à cet instant précis, au verset 6 que nous avons lu, Samuel allait faire un mauvais choix. Et nos choix naturels sont souvent les mauvais. Pourquoi? Parce qu'il allait choisir le prochain roi selon son intuition, selon ses raisonnements, selon sa chair. Par exemple, nous voyons dans l'Ancien Testament que Lot a choisi par son impression personnelle les villes de Sodome et Gomorre pour y habiter. Mais nous savons que ces villes étaient mauvaises et qu'elles ont été d'une mauvaise influence sur sa vie et sur sa famille, de sorte que bien toute sa famille, ses deux filles, et aussi sa femme ont été affectés par toute cette affaire et il n'a pu réchapper qu'avec ses deux filles de cette ville. À Caen, un peu plus loin, lui, à Caen, il avait décidé de garder dans sa tente des objets dévoués par interdit. Dieu avait dit, vous détruirez tous ces objets car ils font partie des nations païennes. Nous n'en voulons pas au milieu du peuple de Dieu. À Caen avait fait une sorte de compromis en disant, je vais garder quand même quelques beaux objets, je vais les cacher dans ma tente, mais personne n'en saura rien. Sauf que Dieu sait tout. Et il a dénoncé ce péché. C'était un interdit. C'était un interdit sur le peuple de Dieu parce que quelqu'un avait péché, désobéi à Dieu. Et ainsi, toute la communauté en était affectée. Et Achan a été dévoilé. Achan avait fait un mauvais choix parce qu'il s'était laissé inspirer par sa chair. Pareil pour Ésaü, lorsqu'il a fait le choix de se marier avec des Cananéennes. Or, ses parents lui disaient, mais marie-toi avec une fille du peuple de Dieu, mais pourquoi tu vas vers les femmes étrangères qui n'ont pas notre Dieu? Eh bien, il n'a écouté que sa tête, il n'a écouté que son cœur, et il est allé avec ces femmes cananéennes qui ont été un sujet d'amertume, dit la Bible, pour toute sa famille. Donc, un mauvais choix. Tout ça, ce sont des croyants qui ont fait des mauvais choix. Et peut-être c'est le cas ce matin, vous avez fait un mauvais choix. Et les mauvais choix ont des conséquences qui parfois vont nous suivre toute notre vie. Et c'est pourquoi nous devons prier afin que Dieu nous guide pour faire les bons choix et rencontrer les bonnes personnes. Parce que si on n'en fait qu'à sa tête et on n'écoute pas Dieu, on va avoir les difficultés qui vont avec. Alors Samuel était sur le point de faire un mauvais choix. C'est un croyant, il aime Dieu, mais il n'est pas infaillible. Il peut se tromper comme nous aussi. Seulement quand on est croyant, on est sensible au Saint-Esprit. Il prie dans son cœur. Il dit certainement c'est lui, il s'apprête à loindre d'huile en disant il a la carrure. Et en fait, il a tous les éléments qui correspondent au futur roi. Objectivement, c'est la meilleure solution. Mais c'est un piège. C'est les apparences. Or, nous sommes sensibles au Saint-Esprit. La Bible dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Ça veut dire que Samuel, en même temps, il est en train de chercher qui est le prochain roi, en même temps, il prie dans son cœur, est-ce que c'est lui, Seigneur ? Et là, le Seigneur va parler à son cœur et lui dire non. Non. Et peut-être Samuel dit, mais enfin, c'est lui l'aîné. Il a toutes les caractéristiques. Il est le plus fort. Il correspond bien au prochain roi. Il ressemble un peu à Saül. Non, ce n'est pas celui que Dieu a choisi. Dieu lui dit, les hommes regardent aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà où regarde l'Éternel ce matin. Il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. On doit avoir une oreille sensible à Dieu. Il y a quelques années de cela, j'étais dans un garage pour faire la révision de la voiture. Donc j'avais laissé la voiture au garagiste et j'étais allé faire un tour. Et je reviens donc après pour récupérer la voiture. Et le garagiste avait démonté les roues avant. Et il me montre les plaquettes de frein en me disant, les disques de frein. Il me dit, mais je ne peux pas vous laisser repartir avec la voiture. Vos disques de frein, ils sont complètement usés. Vous risquez un grand dommage si vous partez avec votre voiture. Et au même moment qu'il me dit ça, j'entends une voix à l'intérieur de mon esprit qui dit, cet homme te ment. Comme ça. Cet homme te ment. Et il m'explique, voyez, j'ai justement les pièces et je peux vous faire la facture, je vous les installe et tout, et vous repartez avec votre voiture. Et moi, cette phrase revient dans mon cœur, cet homme te ment. Et pourtant, je ne m'y connais pas en mécanique, et donc, je suis censé lui faire confiance. Alors, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, écoutez, remettez-moi les roues comme elles étaient avant, je vais laisser la voiture comme elle. Il me dit, mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte, vous allez avoir peut-être un accident, c'est très dangereux. Je lui dis, faites ce que je vous dis. Bon, il a fait ce que j'ai dit. Et puis, ça m'a trotté dans l'esprit, alors je suis allé voir un autre garagiste. Et je lui ai demandé de regarder mes disques de frein. Et il m'a dit, mais monsieur, vos disques, ils sont encore en très bon état. Vous pouvez faire encore au moins 20 000 km avec sans problème. Voyez. Alors, la voix du Saint-Esprit peut survenir à n'importe quel moment. Et nous devons être sensibles à Dieu, tout simplement, écouter Dieu, parce que la personne peut avoir les apparences, peut se présenter comme un spécialiste, mais peut-être il vient vous tromper, peut-être il vient semer quelques mauvaises affaires pour que vous signiez des contrats, mais nous devons prier, Seigneur, quelle est ta volonté ? Et puis, tout d'un coup, le Seigneur vous dirige, le Seigneur vous parle. Seulement, il faut avoir un esprit ouvert. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire fermer les yeux toute la journée et être en attitude de prière à genoux. Ça veut dire avoir un esprit ouvert au Saint-Esprit, un esprit ouvert à Dieu, être en contact avec Dieu, prier sans cesse. C'est ce que fait Samuel. Alors qu'il s'apprête à faire une erreur, le Saint-Esprit lui dit non, ne verse pas l'huile sur lui, c'est un autre. Alors il continue. Et il va consulter Dieu à chaque fois. Le deuxième fils passe. Il consulte Dieu, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est pas lui. Le quatrième. Tous les fils sont passés, Dieu n'a choisi aucun d'entre eux. Alors, c'est bien de consulter Dieu. Parce que si nous ne consultons pas Dieu avant de prendre une décision, nous pouvons aller à l'échec. Voyez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont rentrés dans Canaan, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'était Jéricho. Ils ont fait plusieurs fois le tour de la ville, les murailles se sont effondrées, il y a eu une grande victoire. Et se basant sur cette victoire, ils ont été attaquer la ville suivante qui s'appelait Haï. Et dans cette ville, ils n'ont pas pris le temps de consulter Dieu. Ils se sont dit, ce n'est pas la peine d'envoyer tout le peuple. Vu la manière dont on a gagné, ça va se faire tout seul. Peut-être 2 ou 3 000 personnes, on va y aller et on va remporter la victoire. Ce n'est pas la peine de fatiguer tout le monde. Un petit groupe suffira. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils sont allés pour la conquête et c'est eux qui se sont fait... Ils ont perdu la bataille parce que l'ennemi était plus fort. Ils n'avaient pas consulté Dieu. C'est après avoir consulté Dieu qu'ils ont trouvé le moyen de prendre la victoire. Donc ça, ce sont des exemples pour nous montrer que des fois, nous prenons des décisions, nous n'avons pas consulté Dieu, mais nous aurons les problèmes qui vont avec. Et le problème pour Samuel, parce que lui, il a consulté Dieu, mais il a quand même un problème, c'est que Dieu n'a choisi aucun d'eux. La question qu'il pose, il dit, mais en lui-même, il raisonne, je ne comprends pas, je suis venu ici pour oindre le prochain roi, Dieu m'a dit qu'il est dans cette maison, or j'ai vu tous les fils qui me sont présentés, Dieu n'a choisi aucun d'eux, donc il y a un problème. Sont-ce là tous tes fils? Est-ce qu'il n'y en a pas un autre quelque part? C'était ça le problème. En fait, c'est que Ésaïe, le père de David, n'avait pas obéi entièrement à la parole de Dieu. Ésaïe avait obéi à 90%. Lorsque Samuel est arrivé, il avait dit à Ésaïe, « Tu me convoqueras tous tes fils. » Il n'avait pas dit, tu en convoqueras 7 sur 8. Il avait dit, « Tous tes fils. » Et pourtant, Ésaïe a fait autre chose. Vous voyez, quelquefois, nous croyons, Dieu nous dit quelque chose, mais nous décidons d'en faire une partie. Mais ça ne va pas fonctionner. Et ainsi, Samuel est bloqué. Samuel ne peut pas trouver le prochain roi d'Israël parce qu'il est bloqué à cause d'Isaïe qui n'a pas obéi parfaitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va nous tester sur l'obéissance. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu ou est-ce que nous disons, bon, j'ai fait à peu près ce que Dieu demande, bon, j'ai pas fait tout à fait comme il faut, mais c'est pas grave, ça ressemble à peu près, ça va aller. Eh bien non, ça ne fonctionnera pas. Nous sommes testés sur l'obéissance et si nous ne voulons pas obéir à toute la parole de Dieu, comme elle est enseignée, eh bien on obéira comme Isaïe, sauf que le plan de Dieu va être bloqué à un moment donné, le choix ne va pas pouvoir se faire, il manque un fils, il manquait David. Le deuxième point dans ce texte, c'est maintenant le choix de Dieu. Car David ne pouvait rien faire pour être présent ce jour-là à la réunion. Il ne pouvait pas s'imposer, il ne pouvait pas forcer les choses. Son père l'avait mis de côté, il lui avait laissé la garde du troupeau de brebis. Donc, il n'était pas à la réunion importante. Bon, c'est vrai qu'il fallait quelqu'un pour garder les brebis, mais néanmoins, je remarque que quand David est venu, Isaïe a trouvé une solution pour remplacer David. Donc, David aurait quand même pu être présent. C'est donc intentionnel. David pouvait se dire, ben voilà, je ne suis pas à la réunion, peut-être que le choix de Dieu n'est pas sur ma vie, ou ce n'est pas juste, peut-être il aurait pu se peindre, il aurait pu devenir amer, il aurait pu en vouloir à son père et à Dieu de cette situation. Mais regardez comment les choses se passent. Samuel n'est pas au courant, il demande si c'est bien là tous ses fils, tout est conduit par Dieu. De sorte que David, qui n'était pas convoqué, il dit à Isaïe, va le chercher, parce que nous ne nous placerons pas tant que je n'aurai pas rencontré David. En fait, c'est Dieu qui va faire venir David au bon endroit, là où il aurait dû être dès le départ. Les hommes ne voulaient pas. Isaïe a tout fait pour qu'il ne vienne pas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui nous amènera au bon endroit. Simplement prions le Seigneur. Faisons-lui confiance. Peut-être quelqu'un vous a oublié quelque part, un petit peu comme Isaïe a oublié David. On a fait la réunion sans vous. Quelqu'un me disait, moi, mon mari, il arrive en fin de carrière, il est presque à la retraite, mais au travail, ils l'ont mis au placard. Ils ne veulent plus lui demander quoi que ce soit. Il est mis de côté. Ou peut-être dans votre famille, quelqu'un vous a abandonné, rejeté. On vous a traité d'incapable. Mais regardez ce que dit David au psaume 56, verset 12. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Les hommes font leur plan, mais Dieu a son plan. Et Dieu peut nous amener au bon endroit, même si les hommes ne voulaient pas que nous y soyons. Dieu va ouvrir les portes à un moment donné pour que nous puissions y être. Ça, c'est le plan de Dieu. David, lui, était serviable. Il n'a rien demandé. Il était là en train de garder les brebis de son père. Il faisait consciencieusement son travail, même si personne ne le voyait. On voit que ce temps de mise à part n'était pas inutile. Et quelquefois, vous pouvez vous dire, ben moi, je suis mis de côté, je suis rejeté. Mais ce temps de rejet, même, nous permet, à part, de développer une relation avec Dieu, de continuer à avancer avec le Seigneur. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Avec ses brebis, dans ses champs, il méditait sur les choses de Dieu. Il composait des cantiques avec sa harpe. Il était là dans la présence du Saint-Esprit. Et tout cela faisait un travail merveilleux dans son cœur, de sorte qu'il avait trouvé, en fait, le lieu secret. Jésus en parle dans Matthieu 6:6. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que nous avons trouvé nous aussi le lieu secret? C'est-à-dire un temps où on peut se placer devant le Seigneur et prier, écouter Dieu et lui parler, méditer sur les choses de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le culte personnel, le lieu secret où on rend grâce à Dieu, où on prie. Et toute personne qui a du succès, en fait, c'est parce qu'elle a trouvé le lieu secret. Elle est dans la présence de Dieu, un temps de préparation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il médite, il joue de la harpe. La Bible dit qu'il était un excellent musicien. Il s'entraînait, il se perfectionne à la fronde. Il fait beaucoup, beaucoup de choses dans ce lieu secret. Mais en fait, il est en train de préparer l'avenir. Car Dieu va utiliser tout ce que David a appris dans le lieu secret. On voit dans la suite de son histoire. Eh bien, ça va lui être utile. Par exemple, la harpe, il va composer des cantiques. Il va composer de nombreux psaumes. Mais tout ça, ça s'est préparé dans le lieu secret. La fronde, ça va être utile quand il va être confronté au géant Goliath. Il va pouvoir le vaincre simplement avec une fronde parce qu'il s'était préparé dans le lieu secret. Vous ne perdez pas votre temps dans le lieu secret. Vous ne perdez pas le temps, même si vous êtes rejeté, mis de côté, on ne vous a pas convoqué. Vous êtes dans un temps de préparation, le lieu secret. Il y a quelques années de cela, c'était peut-être il y a une quinzaine d'années, Dieu m'a mis à cœur de faire des études bibliques que j'ai fait ici à Toulouse-Ouest une fois par mois, des études bibliques sur des thèmes comme des thèmes de la Bible comme Dieu, la création. Je faisais ça sur 2 ou 3 mardis, le péché sur 2 ou 3 mardis, etc. Je faisais des thèmes comme cela pendant une année, puis après une autre année. Pendant au moins 4 années, j'ai fait des thèmes suivis comme ça. C'est Dieu m'avait mis à cœur de faire cela. Et puis, encore bien des années après, peut-être il y a 6 ans de cela, le directeur de l'ITB m'a demandé si je pouvais donner des cours à l'Institut biblique. Et les cours qu'il m'a demandé, en fait, c'était des thèmes, la plupart c'était des thèmes que j'avais préparés. Il ne le savait pas. Moi, je ne savais pas que je préparais ces choses, mais ça avait encore une valeur autre. Et donc, quand il m'a demandé, ben, j'étais prêt, j'ai repris ce travail, j'ai retravaillé, mais j'avais une base. Et en fait, Dieu m'a préparé longtemps à l'avance de choses que je fais aujourd'hui pour enseigner à l'Institut biblique, où il y a les premières, deuxième, troisième années. Eh bien, ça, en fait, ces cours ont commencé dans la préparation, dans l'étude biblique, dans ce travail qui a été préparatoire, mais qui a été bénéfique. Et tout cela, eh bien, était pour un plan, parce que Dieu voit toujours plus loin que nous. Et aujourd'hui, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais on est poussé par Dieu pour les faire. Mais Dieu sait que ce sera aussi utile pour quelque chose d'autre. Et Dieu voit toujours avec un temps d'avance. C'est pourquoi laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et il va ouvrir la porte à un moment donné. Personne ne voit ce que fait David. Personne ne sait combien il joue de l'harpe, combien il s'entraîne à la fronde, combien il est vaillant. Mais Dieu le voit. Et Dieu va le faire savoir. C'est écrit dans Apocalypse 3:8. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ah, quand Dieu a décidé d'ouvrir une porte, personne ne pourra la fermer. Isaïe avait mis David de côté, mais Dieu a dit « Moi, j'ouvre la porte. » Et David s'est retrouvé à la réunion. Et dès que David arrive, le Saint-Esprit parle à Samuel « Oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. » Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous serez amené à la bonne personne, au bon endroit. Vos amis peut-être vont vous rejeter, votre mari est parti, vous êtes seul, peut-être à élever vos enfants, vos parents vous ont peut-être abandonné. Le psaume 27:10, il exprime ce sentiment de David. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Une autre traduction, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, le Seigneur me recueillera. » Même si. Peut-être vous n'avez pas été abandonné par votre père et votre mère, et c'est tant mieux. Mais même si ça arrivait, en tout cas la Bible dit, le Seigneur, lui, ne vous abandonnera pas parce que Dieu vous aime et il a un plan pour vous. Seulement, nous devons veiller sur notre cœur. Même si nous sommes dans le rejet, frères et sœurs. David était dans le rejet. Il n'est pas tombé dans l'amertume. Il n'est pas tombé dans les jugements, dans la critique. Il a gardé son cœur, comme dit la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je termine avec un dernier point. C'est maintenant l'onction qui va habiter David. Dès ce jour, dis-le, dès ce jour, c'est écrit comme ça, et par la suite. À partir de ce jour et dans la suite. Les conséquences de l'onction sur la vie de David vont être énormes. Parce que lorsque Saül était agité par le mauvais esprit, on l'a lu tout à l'heure, c'est-à-dire que lui étant un roi désobéissant, il n'y avait rien qui pouvait l'apaiser. Il pouvait aller voir le médecin, mais le médecin ne savait pas quoi faire. Comment voulez-vous faire contre un mauvais esprit? Il n'y a pas de médicament. On pouvait lui mettre des antidépresseurs. On lui met des antidépresseurs, mais le mauvais esprit l'agite quand même. Les antidépresseurs n'agissent pas pour les mauvais esprits. Alors il pouvait faire une cure, peut-être partir en voyage, dépenser de l'argent, se changer les idées. Certains regardent des films, des sorties, vont au cinéma, sortent dans les discothèques pour se changer l'esprit, toutes sortes de soirées. Mais le problème, quand on est seul, quand on est là devant Dieu, il y a toujours ce problème qui est là. Il n'est pas réglé. Parce que quand il y a un problème spirituel, la seule solution, elle va être spirituelle. Là, Saül a un problème spirituel. Et il y a beaucoup de gens tourmentés encore aujourd'hui par des mauvais esprits. Les mauvais esprits, ce sont des entités invisibles qui communiquent des peurs, des angoisses, un mal-être, qui donnent des pensées de suicide, qui donnent des pensées de mort, de violence. Toutes ces choses-là, ils agissent dans ce monde, nous ne les voyons pas, mais c'est réel. Alors, quand on a décidé de vivre sans Dieu, de ne pas se soucier de Dieu, on a désobéi à la parole, on nourrit notre âme des choses de ce monde. Eh bien, attention, ces mauvais esprits peuvent avoir une influence. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de choses occultes qui sont véhiculées par les films, voire même les dessins animés pour les enfants. Quand vous voyez tout ce qui véhicule aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Ce sont des signes d'astrologie, ce sont des formules magiques, ce sont des dessins qui sont occultes, et tout cela, c'est en abondance. On peut dire que c'est en abondance, c'est presque énorme. Les films, de nombreux films, pas tous, mais de nombreux films sont très violents, avec des scènes impures, de mauvaises images. Et quand des chrétiens ouvrent leur cœur à ces choses, fatalement, ils vont être agités, ils vont être harcelés par des mauvais esprits, un peu comme Saül. Il était tourmenté par des mauvais esprits, mais parce qu'il était désobéissant. Il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Quel dommage. Alors que nous, chrétiens, notre vocation, c'est de nous garder pour le Seigneur, d'avoir ce cœur pur et de méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit de méditer la parole de Dieu. Pourquoi tant de chrétiens ont une vie intérieure si faible ou si pauvre? Parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu. Alors l'âme se dessèche. Qu'est-ce qui nourrit notre âme? Qu'est-ce qui nourrit notre cœur? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas les films, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ça peut être utile pour se détendre ou faire autre chose, mais ce n'est pas ça qui va nourrir votre âme. Et encore, il faut sélectionner parce qu'il y a vraiment de tout, il faut avoir vraiment un bon jugement. David, lui, a fait un autre choix. Il a décidé de méditer. Psaume 63, verset 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Voilà, au lieu de perdre son temps devant des images impures, des films de violence. Des fois, certains s'endorment devant la télévision et leurs rêves même sont des cauchemars parce qu'ils voient des scènes de violence, des crimes, des morts. Et tout cela les poursuit pendant la nuit. Mais pendant l'éveil de la nuit, méditons la parole de Dieu, c'est autre chose. Il y a un auteur qui a écrit ce texte à partir du psaume 23. Il l'a intitulé « La télé est mon berger ». La télé est mon berger, je ne voudrais pour rien en manquer. Elle me fait reposer dans un fauteuil confortable. Elle me dirige dans une vie inutile et tranquille. Elle divertit mon âme et me délecte de l'injustice. Quand je suis menacé par les conséquences de mes choix, j'ignore tout mal, car tu m'aveugles. Ton écran et tes programmes, voilà tout ce qui m'intéresse. Tu remplis ma tête d'illusions, et mon âme évidée se laisse vivre par tes idées. Oui, le plaisir et la futilité m'accompagneront aussi longtemps que tu existeras. Mais je n'habiterai jamais dans la maison du Seigneur, car tu m'enfermes les portes tous les soirs de ma vie. » Voilà, c'est un peu humoristique, mais c'est pour montrer que nous devons être vigilants, savoir utiliser la télécommande, savoir éteindre quand les choses sont mauvaises. Car ces mauvaises choses, l'audiovisuel, ça rentre dans notre esprit, dans notre cœur. Si on ne lutte pas contre ça, eh bien c'est pour ça qu'il y a un malaise, on n'est pas bien dans notre esprit, dans notre tête, on n'a pas médité les choses de Dieu. Notre esprit s'est rempli de mauvaises choses. Tout cela, nous devons le sortir. Psaume 119, verset 48. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Voilà encore ce psalmiste. « Je veux méditer ta parole. » Mais vous savez, méditer, ça prend du temps. Ça nécessite de se mettre à part, de mettre de côté le téléphone, de se consacrer un temps de réflexion approfondie. Ça nécessite un effort. Et aujourd'hui, les gens, ils aiment bien quand c'est tout fait, qu'il n'y a pas d'effort à faire. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Il y a un travail à faire. Certains pensent, oui, mais le Saint-Esprit me conduira. Non, il y a l'aspect de la méditation. Bien sûr, le Saint-Esprit veut nous conduire. Mais si nous ne méditons pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va nous conduire ? On n'a pas les idées bien en place. Pierre nous le dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » Il y a des convoitises qui vont rentrer dans notre esprit, qui vont nous faire la guerre. Eh bien, Pierre dit, c'est à nous de prendre position. On peut prier, bien sûr, on peut demander à Dieu sa grâce. Mais si on ne prend pas des résolutions fermes, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Abstenez-vous, il dit. Ça veut dire, renoncez-y. Vous savez que c'est mauvais pour votre âme ? Mettez ça de côté. Voyez ce qui est bon pour votre âme. Analysez les choses. Nous sommes un temple saint, dit Pierre. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Regardez comme la chair n'aime pas les choses spirituelles. Quand vous, imaginez que vous voulez jeûner, par exemple. Vous avez décidé de jeûner. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Est-ce que c'est plus facile de jeûner ou est-ce que c'est plus facile de manger ? Ce n'est pas une question trop difficile. C'est plus difficile de jeûner. C'est beaucoup plus difficile de jeûner. Regardez quand on organise un repas à l'église. Il y a toujours beaucoup de monde. On peut avoir 70 personnes ici. Mais regardez quand on organise un jeûne et prière. C'est l'hécatombe. Tous ceux-là qui étaient vaillants pour manger, pour jeûner, ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus difficile pour jeûner. Mais parce que c'est un combat spirituel. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Nous sommes dans un combat spirituel. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prier, ce n'est pas facile de jeûner. Jeûner, c'est un combat contre la chair. Mais vous avez raison de jeûner. Parce que quand on jeûne, on cherche la face de Dieu, on prend des victoires sur soi-même, sur l'esprit, sur la chair. L'esprit est bien disposé, dit Jésus, mais la chair est faible. On prend des victoires sur la chair. On ne se laisse pas dominer par la chair. Et on apprend à écouter la voix de Dieu. David avait un bon témoignage. Dieu lui avait donné des talents. Il fait fructifier toutes ces choses. Dieu ne bénit pas la paresse, mais Dieu bénit celui qui travaille. Il jouait très bien de la harpe et on a entendu parler de lui. Et ainsi, il s'est retrouvé devant le roi qui était toujours agité. Et lorsque David jouait de la harpe, eh bien, l'esprit impur se retirait de Saül. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait une atmosphère de louange, une atmosphère de grâce, une atmosphère de bénédiction. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a des atmosphères qui sont chargées. La Bible, c'est Paul qui dit que le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. Il agit dans l'atmosphère. Il crée des atmosphères ténébreuses. Ça m'est arrivé il y a quelques années de cela d'aller dans une bibliothèque et je regardais un peu dans les rayons, prendre quelques livres pour les consulter. Je m'arrête dans le rayon d'histoire, je regarde un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où je l'ouvre, je tombe en plein milieu, c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'était sur... Hitler. Hitler en première page avec les camps de concentration et tout. Et au moment où j'ouvre ce livre, je ressens une présence là, mais une présence mais mauvaise. La présence d'un mauvais esprit qui se manifeste dans la bibliothèque. Alors, quand je vois ça, j'ai dit non, je ferme ce livre, je l'ai remis à sa place. Au moment où je l'ai remis, paf, ça a disparu. Et je ne voulais pas emmener ce livre chez moi. Parce que Dieu m'a fait la grâce de ressentir ce qu'il y avait attaché à ce livre. Il y avait une puissance impure. Il y a des mauvaises choses. On l'ignore. Et on amène chez nous des fois des choses qui sont mauvaises. Que Dieu nous ouvre les yeux, nous éclaire. Et si Dieu nous éclaire, en tout cas, obéissons à sa voix. Je conclue. David a été oint du Saint-Esprit pour être efficace. Mais j'aimerais dire ce matin que nous avons encore besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas simplement avec la technologie, avec nos moyens modernes, que nous pourrons témoigner, mais c'est avec l'onction du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Peut-être vous dites, oui, mais moi je ne suis pas parfait, mais Dieu peut vous utiliser. David n'était pas parfait non plus. David avait des failles, il avait des problèmes, mais il cherchait Dieu, il demandait pardon quand il se trompait. Eh bien, Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaits. Mais il veut les rendre capables d'être des témoins. Et comment être capable ? Par l'onction du Saint-Esprit. Peut-être vous pensez que c'est pour les autres, mais Pierre dit non, la promesse est pour vous. elle est pour vos enfants, le Saint-Esprit. Car nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas votre situation ce matin, mais certains se sont comme attiédis. Ils ont été piégés par les choses de ce monde, par, on va dire, le prince de la puissance de l'air. Il vous a laissé croire que vous étiez incapable, que vous ne pouviez rien faire. Mais ce matin, on va laisser le Saint-Esprit nous visiter.